France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ça y est, on ne pensait pas que ça arriverait un jour, mais voilà, ça y est, c'est bon, c'est les vacances officielles. Et oui, fin des cours, embouteillage, pastis, ça sent vraiment les congés. Alors juste une chose, puisqu'il faut savoir défendre des causes et s'insurger contre l'ignominie, il paraît que les cahiers de vacances pour adultes ont de plus en plus de succès, et ça... C'est pas possible en fait. Hein. Si nous avons choisi de devenir adultes, c'est justement parce qu'il n'y a plus de cahier de vacances. Sinon, on serait restés des enfants. En plus, on n'a même plus le plaisir de voler les corriger aux parents. Quel intérêt? Je ne sais pas. En tout cas, eux, ils révisent l'actualité toute l'année. Et ce soir, assis à la table des informés de France Info, nous trouvons Soazic Kemener. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Marie.
Également, Hamdam Mostafavi. Bonsoir.
Bonsoir.
De Courrier International. Également, la députée de la 10e circonscription des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche, Aurore Berger. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico doit nous rejoindre dans quelques minutes ou quelques heures, on ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas où il est, mais on va le retrouver, c'est sûr, à les informer de France Info, c'est parti. Il paraît qu'avant de rentrer au gouvernement, les ministres issus de la société civile ont dû remplir une fiche de renseignement afin de mieux les cerner. Adresse, passion, sport et même film préféré. Et dans cette catégorie, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, aurait écrit « Mon film préféré, c'est Las Vegas Parano ». Et c'est vrai que quand Muriel Pénicaud parle de Las Vegas, ça rend tout le gouvernement parano, hein, puisqu'aujourd'hui, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre X pour favoritisme et recel de favoritisme dans l'enquête sur l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, à Las Vegas en janvier 2016. La justice soupçonne des dysfonctionnements dans le montage de cette opération confiée à Havas, sans appel d'offres par Business France, organisme notamment dépendant de Bercy. La directrice générale de Business France en 2016, eh bien, c'était Muriel Pénicaud, et elle est notamment soupçonnée d'avoir pu être alertée en amont des difficultés comptables liées à l'organisation de l'événement. Mais pas de panique pour le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.
C'est une grande professionnelle du droit du travail et on le voit bien dans les échanges qu'elle a avec les partenaires sociaux. Ce dossier qui parle d'un dépassement d'un marché public, on parle uniquement de ça, n'a franchement rien à voir avec sa capacité à rassembler, à travailler, à décider sur le sujet de la réforme du droit du travail.
Voilà, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner sur BFM. Alors forcément, je me tourne vers vous, Aurore Berger. Le cas Pénicaud, ça commence à être un peu embarrassant, non, pour le gouvernement?
Écoutez, pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours. Voilà, tout simplement, il y a une présomption d'innocence. Moi, ce que je sais, c'est que quand elle était directrice générale de Business France et quand elle a été informée a posteriori de cette affaire, elle a diligenté un audit interne et un audit externe pour comprendre ce qui s'était passé. Donc, il me semble qu'elle avait pris la mesure, justement, de ce qui avait pu se passer à
alors,
ce moment-là.
Alors, on connaît les dates, c'est-à-dire qu'elle l'a quand même commandité un an après. Près de mois de décembre, c'était en
elle
janvier.
Elle a été, il me semble, informée a posteriori. En tout cas, c'est l'enquête qui déterminera les éléments. Après, Business France est dans son rôle. Business France, c'est quoi? C'est un outil de promotion de l'image économique de la France à l'international. Donc, que Business France accompagne un événement comme le CES, qui est celui de, qui est le sommet mondial des startups et notamment accompagne la French Tech à Las Vegas, ça paraît quand même assez logique que ce soit dans le cadre de ses missions.
Soazic Kemener, alors, ça n'a pas l'air du tout embarrassant pour ce gouvernement. Et pourtant, Christophe Castaner dit qu'il y a une enquête. S'il y a mise en examen à ce moment-là, il y aura en effet des missions, mais on a vu d'autres ministres partir du gouvernement sans être mis en examen.
Oui, alors c'est vrai qu'ils sont partis dans un moment très particulier puisque c'était le remaniement, donc l'occasion hein, d'enlever les éléments qui pouvaient ensuite poser problème. Alors il y a deux choses dans ce que dit Christophe Castaner. Sur la première chose, il a raison, c'est-à-dire que on a fait une enquête cette semaine pour Marianne. Les partenaires sociaux, pour le moment, veulent continuer à travailler avec elle. Alors, vous savez, ils avaient plutôt bien accueilli son arrivée parce qu'ils la connaissent, parce qu'elle a été conseillère de Martine Aubry il y a déjà un petit moment. Donc ils ont envie de travailler avec elle et surtout ils n'ont pas envie de changer de ministre parce que c'est en négociation et que pour l'instant ils se disent qu'ils n'ont pas envie de changer tous les 100 mètres, hein, comme le dit un syndicaliste interrogé par Laurence Deuquet dans Marianne cette semaine. Ça c'est la première chose. Après il y a la question plus globale d'Havas. Parce que, la défense d'Havas, enfin la défense en tout cas, c'est de dire mais c'était dans le cadre d'un contrat cadre, donc qui était plus grand que le contrat juste pour cette soirée à Las Vegas, mais qui était un contrat de Business France, globalement pour promouvoir Business France. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin d'appel d'offres spécifique pour la soirée de Las Vegas. Mais ce contrat Havas pose aussi des questions parce qu'il y a des proches d'Emmanuel Macron qui ont travaillé chez Havas. On a une enquête aussi là-dessus dans Marianne cette semaine. Donc ça pose la question de la relation avec cette entité de communication qui est propriété de Bolloré. Donc c'est assez tentaculaire cette affaire. Donc effectivement, on n'est qu'au début. On va voir ce que ça donne. L'enquête est en cours.
Amda Mostafavi, pour vous aujourd'hui, Muriel Pénicaud qui quand même va aujourd'hui présenter une des lois les plus symboliques peut-être déjà de ce quinquennat, qui est la loi travail. Est-ce qu'elle n'est pas fragilisée justement par cette affaire ?
C'est sûr que c'est un peu l'image aussi que voulait donner Emmanuel Macron, qui est un petit peu fragilisée, parce qu'après Bayrou qui portait la loi de moralisation qui disparaît, maintenant si elle porte la plus importante réforme que veut faire le gouvernement, c'est un peu gênant. Après c'est vrai que c'était dans la presse italienne qu'il y avait pas mal d'articles sur ce sujet, sur le côté, bon après les Italiens ils ont eux-mêmes leurs problèmes la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté maintenant, cette soif de transparence en France, c'est-à-dire maintenant la moindre petite affaire ça, tout de suite monte énormément, et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, on cherche aussi à chaque nouvelle personne qui est un peu mise dans la lumière à démonter ce qu'elle est en train de faire. Alors voilà, tout est encore à élucider dans cette affaire, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que le voile du soupçon suffit aussi maintenant à décrédibiliser les gens.
Justement, Robert Berger, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a deux manières de traiter les gens ? C'est-à-dire, François Bayrou, il y a un soupçon, il n'est pas reconduit à son poste, et Muriel Pénicaud, aujourd'hui, continue, elle, à son poste, malgré le remaniement ? Est-ce qu'il n'y a pas deux traitements ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait deux traitements. Déjà, encore une fois, il y a une enquête qui est diligentée, donc moi, il ne m'appartient pas, en étant député, de commenter l'enquête en cours. Ce que je sais, c'est que François Bayrou a fait le choix de ne pas rester au gouvernement parce qu'il estimait que c'était compliqué pour lui de porter la loi sur la confiance dans la vie politique, alors qu'il y avait un soupçon qui pesait sur lui, donc une entrave à agir. Encore une fois, il ne faisait l'objet d'aucune enquête, et je ne pense pas qu'il en fasse l'objet d'ailleurs.
Vous savez que c'est un tout petit peu plus compliqué dans la mesure où François Bayrou a quitté le gouvernement, mais au départ, il souhaitait y rester. C'est-à-dire que c'est le départ de Madame Goulard.
Peut-être les informations que vous avez, en tout cas.
Elle-même ne s'estimait pas en capacité de rester au ministère des Affaires européennes parce qu'il y avait cette enquête qui la concernait, justement.
Sylvie Goulard était ministre des Armées.
Excusez-moi.
Il n'y a pas d'enquête, d'ailleurs. Elle ne fait pas l'objet d'une enquête.
Non, parce qu'elle avait été eurodéputée et qu'elle pouvait être concernée par cette affaire d'assistant parlementaire, pour être tout à fait précise. Et bien sûr, elle était ministre des Armées, vous avez raison de me reprendre.
Mais oui, je me permets, comme ça, de temps en temps. Allez, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Une décision de la justice russe à l'instant dans l'affaire du crash de l'avion de l'ancien PDG de Total, Christophe Demargerie, en 2014. Les deux principaux accusés sont dispensés de peine en vertu d'une amnistie décrétée en 2015. Le conducteur du chasse-neige à l'origine du crash et l'ingénieur responsable du contrôle des vols. Ils ont pourtant été reconnus coupables, mais ils ne purgeront pas leur peine. Une nouvelle arrestation ce soir dans l'enquête sur l'attentat de Manchester le 22 mai. Un homme âgé de 19 ans a été arrêté à l'aéroport de Liverpool. Selon un tweet de la police de Manchester, cet homme a été placé en détention provisoire. On n'en sait pas plus. 23 personnes ont été arrêtées depuis l'attentat. 20 ont depuis été relâchées. Le Premier ministre veut renforcer l'attractivité de Paris auprès des entreprises et des institutions financières en plein Brexit. Édouard Philippe s'engage à réduire le coût du travail en supprimant notamment la tranche à 20% de la taxe sur les salaires, celle sur les gros revenus du secteur financier. En clair, les contraintes pour les investisseurs étrangers qui veulent s'installer en France vont être allégés. Les Nations Unies adoptent un traité interdisant les armes nucléaires, un texte à forte portée symbolique au moment où la Corée du Nord accélère son programme d'armement. La France et les États-Unis, qui détiennent tous les deux le feu nucléaire, s'y sont opposés, jugeant le traité irréaliste. L'arrivée très très serrée de la 7e étape du Tour de France, la photo finish a donné l'Allemand Marcel Kittel vainqueur, mais quasi ex aequo avec le Norvégien Boasson Hagen. Le Britannique Chris Froome reste en jaune à l'issue de l'étape à Nuit-Saint-Georges.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Soazig Kemener, de Marianne également, Amda Mostafavi de Courrier International, Aurore Berger, député des Yvelines et porte-parole du groupe La République En Marche, et Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, vous nous avez rejoint du site d'information Atlantico. Alors justement, Jean-Sébastien, nous étions en train de parler de Las Vegas, de l'affaire Pénicaud. Pour vous, aujourd'hui, juste avant le rappel des titres, on se demandait finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu deux traitements différents entre ces ministres du Modem plus Richard Ferrand, qui n'ont pas été repris lors du remaniement ministériel, et Muriel Pénicaud.
Muriel Pénicaud n'est pas ministre de la Justice, donc elle n'est pas en charge du ministère qui enquêterait sur elle-même, en quelque sorte, ou sur une affaire la concernant. Donc je pense que dans le cas de François Bayrou, ce qui posait le plus problème était qu'il soit le garde des Sceaux. Après, la règle qui a été établie, c'est celle de la mise en examen. Donc en l'état, elle n'est pas mise en examen. Je ne pense pas que ce soit un problème en tant que tel. La presse, probablement, ça finira par devenir un problème politique dans la mesure où, jour après jour, on se rend compte qu'il y a quand même eu une succession, si ce n'est de mensonges, du moins d'arrangement avec la réalité. Je voyais Mediapart cet après-midi qui rappelait justement comment Muriel Pénicaud, malgré des avertissements répétés, avait décidé malgré tout de continuer à essayer de masquer ce qui avait été fait. Après, c'est pas forcément l'affaire du siècle. Simplement, on en revient toujours à la même chose. Quand on s'est fait élire sur la promesse d'un nouveau monde et quand on s'est fait élire sur la promesse d'incarner la moralisation et qu'on ressemble finalement profondément à l'ancien monde, mais pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas y avoir de nouveau monde de ce point de vue-là. Parce que ce genre de conflit-là, de favoritisme ou les conflits d'intérêts, de toute façon, sont bien souvent des définitions tellement vagues que quand on a envie de s'en prendre à quelqu'un, on peut s'en prendre à quelqu'un. Mmh. Mais justement, c'est ça la question qui est intéressante. C'est qu'il faudra bien, et ce sera intéressant d'un point de vue démocratique, qu'on ait cette réflexion-là, puisque c'était interdit pendant l'affaire Fillon de se poser la question s'il n'y avait pas certains cas où la justice était un peu instrumentalisée ou politisée, ou si les médias n'en faisaient pas une utilisation politisée. On ne peut pas maintenant, encore plus quand le gouvernement demande qu'on fiche la paix à ses membres, ne pas se poser cette question-là.
Mais Aurore Berger, vous, quand justement on se pose cette question, c'est vrai qu'il y a eu des réflexes assez étonnant par rapport à la presse de Christophe Castaner qui disait « Faut la laisser tranquille un peu, Muriel Pénicaud, elle a eu du travail, ça paraît bizarre comme argument. »
De toute façon, vous ne le faites pas.
Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Non, mais
donc
si,
voilà,
mais,
vous répondez à la question.
Donc finalement, on peut s'astreindre complètement. Et justement, pour vous, cette loi aujourd'hui sur la moralisation de la vie politique qui est aussi vraiment une des premières lois symboles de ce quinquennat, qui va arriver d'ailleurs, je crois, pendant l'été,
juillet.
Fin juillet, voilà. Aujourd'hui, est-ce que finalement, c'est plus du symbole qu'autre chose?
Non, c'est pas du symbole parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être apportées dans cette loi. Il y a la question du renforcement de l'indépendance de la justice. La suppression de la Cour de justice de la République, qui est un peu une forme de justice d'exception pour les ministres. Il y a la question aussi du renforcement des éléments sur les conflits d'intérêts. Il y a des décrets d'application qui sont sortis sur une loi importante, qui est la loi Sapin 2, notamment sur ces questions-là, qui définissent ce que sont les représentants d'intérêts, c'est-à-dire des lobbies qui peuvent venir au sein de l'Assemblée et du Sénat pour défendre des intérêts qui sont ceux de fédérations, par exemple, d'associations ou autres. Moi, j'ai justement reçu des associations comme Transparency International, comme Anticor, et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en la matière, et on peut justement faire en sorte que ce soit un nouveau monde aussi sur les pratiques que l'on a. Moi, je suis par exemple pour le fait qu'on rende transparent, moi en tout cas je vais le faire, les agendas des députés. Moi, je veux qu'on sache qui je reçois à l'Assemblée nationale, parce que ça me paraît légitime, notamment quand il s'agit de représentants d'intérêts. Il y a un registre sur lequel les représentants d'intérêts doivent s'inscrire. Ben, ce serait peut-être légitime, par exemple, qu'on ne puisse recevoir dans cela que ceux qui ont fait la démarche de s'inscrire. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut changer.
Mais moyennant quoi, ça se rend en dehors de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est une forme de naïveté. Ça a déjà été essayé dans le passé. Ça a déjà été essayé dans d'autres pays.
On
le registre
essayé,
de la politique et de la décision politique, par nature, ne peut pas être celui de la transparence. Vous ne pouvez pas préparer quelque chose. La décision politique, forcément, elle va faire des mécontents. Donc, si vous êtes en permanence en transparence absolue, les mécontents, ils voient venir les choses. Et du coup, vous allez vous retrouver dans une situation d'impuissance politique. Mais essayez. Peut-être que vous ferez mieux que tous ceux qui s'y sont frottés avant.
Non, mais moi, je suis pas condescendante comme vous le laissez entendre, donc pas du tout. Je dis juste qu'il y a des pratiques qui doivent changer. Moi, je vois juste qu'en tant que nouvelle députée, j'ai reçu un nombre incalculable de courriers, d'invitations à des dîners qui me semblent totalement inappropriés, par exemple pour des parlementaires, parce que je suis invitée par des grandes entreprises à des dîners qui me paraissent pas du tout être dans le rôle.
C'est ce qu'on appelle les lobbies, ça, c'est ça ?
Bien sûr, et c'est pas du tout mon job de parlementaire. C'est totalement lié à la question du conflit d'intérêts. Par contre, j'estime
c'est
que
lié
si
à la
demain,
question de votre éthique personnelle.
Bah oui, mais l'éthique mais à un oui, moment, elle est personnelle, mais elle doit être aussi collective en la matière, puisqu'on est des élus de la nation.
Et donc, si pour certains, peut être une addition de personnes.
Si pour certains, l'éthique, elle n'est pas individuelle, il faut faire en sorte. On fasse en sorte
Sozy Kemener, juste pour terminer sur ce chapitre, il y a Muriel Pénicaud et puis il y a une autre personne qui est le patron du groupe La République En Marche qui continue dans cette affaire, c'est Richard Ferrand qui a été entendu hier donc à l'hôtel de police de Rennes au sujet donc des mutuelles de Bretagne, toujours cette affaire. Là ça devient compliqué parce que on avait l'impression que il était exfiltré finalement à l'Assemblée nationale, que c'était moins grave en gros, que maintenant il pouvait continuer son parcours judiciaire.
Non, mais vous avez raison, il y avait une vraie question sur le fait de dire il ne pouvait plus rester au gouvernement, ou en tout cas il était exfiltré, et puis de dire que maintenant, une fois qu'on regarde ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne pose plus de problème. Alors, effectivement, le problème de tout ça, c'est l'agenda, c'est que ça scande la politique, c'est-à-dire qu'on a appris ce matin, effectivement, qu'il avait été entendu à Rennes pendant 7 heures hier, donc on va avoir ça. Alors ça va arriver au moment de la loi moralisation, et puis ça va revenir au moment des ordonnances. Vous voyez, c'est lancinant, en fait. C'est une musique de fond.
Pourquoi c'est lancinant accompagne... Parce que Emmanuel Macron n'a pas coupé, finalement. C'est le fameux coup du sparadrap, comme on dit.
À la fois, il y a le temps de la justice, et c'est normal que la justice fonctionne et avance. Et en même temps, ça pose à tout le monde la question de savoir à quel moment ça s'arrête. Est-ce que ça s'arrête tout au début de l'affaire? Est-ce que ça s'arrête en route? Et donc, d'ailleurs, le principe même qui est dicté qu'un ministre doit partir au moment de la mise en examen, mais la mise en examen ne signifie pas culpabilité. Donc, dès le début, en choisissant cet arbitrage de mise en examen, il se place dans une situation très délicate, très difficile. Je pense qu'il n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de cas possible, probable. Après, on va voir.
Ça date en tout cas d'Edouard Balladur. C'est vrai, quand un ministre doit quitter le gouvernement, quand il est mis en examen, Madame Mostafavi.
Oui, non, c'est parce que comme on est dans un changement de culture globale où maintenant on est passé du tout le monde peut faire n'importe quoi, là on est un peu dans l'extrême inverse, qui est personne ne peut plus rien faire. Donc c'est vrai que je pense que tant que ce cycle n'est pas terminé, en fait, tant qu'on n'a pas étudié tout, que la France n'est pas allée au bout de ce cycle de d'ultra transparence, on va continuer à avoir des affaires surgir comme ça, et puis à un moment donné, ça va retrouver un semblant de normalité.
Mais on ne sait pas comment, parce qu'en Italie, il faut se souvenir que l'opération Manipulité, elle a débouché sur l'arrivée au pouvoir de Silvio Berlusconi. Donc les tentations de trop grande transparence sans y intégrer une véritable réflexion politique. C'est-à-dire que bien sûr, il faut de la moralisation, bien sûr, il faut se poser la question de la représentation des intérêts au sein du Parlement. Mais les tentations de laver plus blanc, il faut toujours faire très attention, parce que ça n'est pas le registre de la politique, non pas au sens où la politique serait par nature le registre du vice et de la corruption. Et tout à l'heure, quand je vous parlais d'éthique personnelle, c'est parce que de toute façon, ça dépend. C'est aussi une culture qui doit s'installer dans le pays, pas uniquement des règles, pas uniquement des règles. On pourra mettre toutes les règles du monde. Quand il y a des corrompus, c'est aussi parce qu'il y a des corrupteurs.
Aurore Berger, le cas Ferrand, est-ce que c'est quelque chose de fragile pour votre groupe? C'est-à-dire que le président de groupe aujourd'hui continue justement cette affaire judiciaire sur les mutuelles de Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, il a toujours en mesure de diriger ce groupe La République En Marche?
Moi, je pense que oui, il y a une solidarité extrêmement claire du groupe. Qui a accepté que ce soit lui notre président. Je veux dire, à un moment, il n'y a aucun autre candidat qui s'est présenté, et il a le soutien systématiquement de l'ensemble des membres, et j'en fais partie, évidemment.
D'accord, donc jusqu'au bout.
Non, mais enfin, c'est la question qui était posée. Il n'est pas mis en examen, il a été entendu. C'est légitime, en effet, que la justice travaille et qu'il soit entendu, et c'est pas à la justice de s'adapter à notre calendrier. Mais c'est pas non plus à nous de nous adapter en systématiquement sans a priori, alors même que pour l'instant, il y a juste une enquête qui est en cours. Il a été élu député, il a été élu président de notre groupe, et il est légitime pour l'être.
Allez, l'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Plus de 650 policiers mobilisés sur les routes d'Île-de-France pour ce premier grand week-end de départ en vacances. Près de 140 points de contrôle au total sont mis en place à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, selon la préfecture de police de Paris. 1500 contraventions ont été établies le week-end dernier, où un dispositif similaire avait été mis en place. ArcelorMittal porte plainte contre X. Dans un communiqué ce soir, le groupe précise vouloir que toute la lumière soit faite sur les supposés déversements de résidus acides sur son site de Florange en Moselle. Un chauffeur d'une entreprise sous-traitante a affirmé il y a quelques jours à nos confrères de France Bleu avoir utilisé le dépotoir de l'usine pour y déverser de l'acide au lieu de le recycler. ArcelorMittal assure n'avoir jamais ordonné ni cautionné ces pratiques. Des manifestations violentes ce soir en marge du sommet du G20 à Hambourg. Inacceptable selon la chancelière Angela Merkel. Affrontement entre policiers et militants hostiles à cette réunion des grandes puissances en Allemagne. Le programme a pris du retard. La première dame Melania Trump a notamment été bloqué dans sa résidence par des manifestants tout à l'heure. Les autorités allemandes ont dû renforcer leurs effectifs de police alors que débutait la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Échange très vigoureux entre les deux présidents sur les ingérences russes dans les élections américaines, selon Washington. Et puis Benoît Paire en tennis se qualifie pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale de Wimbledon après sa victoire en 3-7 contre le Polonais Janowicz.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors peut-être que vous l'avez remarqué, mais Gérald Darmanin n'est pas n'importe qui au gouvernement. Ben non, parce que son titre, c'est ministre de l'Action. Voilà, c'est un peu notre ninja à nous, en fait. Hein. C'est alors quand on lui demande de chercher comment faire des économies, eh bien lui, il va directement au but et fait une planchette japonaise aux fonctionnaires. Après l'annonce du Premier ministre du gel du point d'indice, Gérald Darmanin a confirmé hier le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique, soit la non-indemnisation du premier jour de maladie, instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012, supprimée en 2014 par François Hollande et qui coûterait 170 millions d'euros par an. L'État veut mettre la fonction publique au régime et les syndicats ne sont pas encore prêts à se serrer la ceinture. Le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Il dit que ça coûte 170 millions d'euros. Bon, je rappelle d'ailleurs que les gens du privé, par les accords que nous négocions dans les entreprises ou dans les branches, notamment dans les branches, la majorité des services privés n'ont pas de jours de carence. C'est une manière de stigmatiser les fonctionnaires pour un rendement financier qui n'est pas si extraordinaire que ça, hein, faut bien le comprendre.
Secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly, Hamdam Mostafavi, pour vous c'est une mesure discriminante envers les fonctionnaires ? De rétablir ce jour de carence ?
Oui, c'est une mesure symbolique. C'est là, pour le coup, je pense que c'est une mesure symbolique pour dire, voilà, là, on va aller faire des économies là où on peut en faire. On répète souvent le discours que la France a le plus de fonctionnaires en Europe. C'est un peu... Bon, pour moi, j'ai l'impression que, voilà, on cherche un endroit où on peut couper facilement, entre guillemets, et c'est là, c'est à ça qu'on s'attaque. Alors bon, quand même, les fonctionnaires, c'est pas n'importe qui. C'est, voilà, l'armée, la police, les hôpitaux, etc. Par exemple, en Allemagne, on dit qu'il y a moins de fonctionnaires, mais tous les hôpitaux ont été privatisés. Donc, et l'argent, l'État continue à verser cet argent. En France, c'est la fonction publique, ça recouvre encore beaucoup, beaucoup de choses, ce qui explique aussi que ça coûte de l'argent.
Oui, bien sûr. Sosie Kemener, on l'a vu hein, quand même dès le début. On sait que donc il y a Édouard Philippe, bien sûr, Premier ministre. Il y a Bruno Le Maire, il y a Gérald Darmanin. On voit que c'est quand même c'est la droite au gouvernement en fait, hein, finalement, qui sont les questions économiques et qui est chargée finalement des annonces les plus dures.
Oui, mais alors ces annonces, elles étaient présentes dans la campagne. Hein, oui. Suppression, enfin non remplacement de 120 000 fonctionnaires, le jour de carence, la suppression du... Voilà. Donc on savait exactement ce qui allait se passer, mais il y a eu un paravent pendant la campagne. Le paravent, c'était qui ? Ben, c'était François Fillon. François Fillon, c'était 500 000 fonctionnaires. Donc, on avait donc finalement, le regard qui était porté sur le programme d'Emmanuel Macron était un regard en balance, c'est-à-dire en bascule par rapport au programme de François Fillon. Donc là, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est très dur pour les fonctionnaires. La potion est très amère, mais c'était une potion annoncée. D'ailleurs, c'est là-dessus que va jouer le gouvernement. Il y a une volonté de donner les mauvaises nouvelles, mais les unes après les autres. Il y a un savant. C'est distinct. Donc, jeudi dernier, le gel du point d'indice pour les fonctionnaires. Cette semaine, on est
sur
le jour de carence. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va y avoir la semaine prochaine, mais mais en tout cas, on est sur quelque chose qui était annoncé pendant la campagne, mais qu'on n'a peut-être pas suffisamment vu.
Aurore Berger, pour vous, c'est vrai, ce sentiment, on l'a entendu chez beaucoup de syndicats, en gros, c'est de dire on s'attaque toujours aux mêmes. Finalement, c'est toujours nous qui devons nous sacrifier, alors qu'on a besoin aujourd'hui de fonctionnaires, notamment dans les hôpitaux, on voit sur la sécurité, à l'éducation.
Mais on ne s'attaque pas aux fonctionnaires. Déjà, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes, un audit de la Cour des comptes qui a démontré qu'il y avait 8 milliards d'euros de déficit caché et que des comptes qui avaient été révélés insincères. Et donc, on a aussi un objectif qui est tout simplement de rétablir des comptes publics sains. Et ça suppose que chacun fasse des efforts, et y compris au sein de la fonction publique. Il ne vous aura pas échappé non plus que quand vous êtes salarié du privé, vous avez aussi des jours de carence. Et en général, ils sont plutôt à 3 jours qu'à juste un jour. Donc, c'est une mesure qui me paraît être une mesure de solidarité.
Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas une majorité dans le privé, alors que là, ça sera global.
Ça dépend énormément des conventions collectives que vous avez. Il y en a en effet où c'est pris en charge, d'autres où ça ne l'est absolument pas. Donc, c'est extrêmement aléatoire dans le privé, mais ça peut aller jusqu'à en effet 3 jours de carence. Donc, c'est plus que ce qui est aujourd'hui annoncé.
Mais on a
annoncé.
Vu la fonction publique ciblée tout de suite, en fait.
Mais la fonction publique, elle n'est pas ciblée. C'est pas vrai. Quand vous regardez, par exemple, le redéploiement des enseignants qu'on fait dès la rentrée, il me semble qu'au contraire, on va valoriser l'éducation nationale. Donc, il n'y a pas une volonté d'attaquer ou de cibler une catégorie professionnelle et qui serait la fonction publique. Il y a juste un objectif qui est de rétablir la santé de compte public et qu'il faut que chacun contribue à cet effort national.
Jean-Sébastien Ferjou, pour vous, c'est... comme j'ai utilisé ce terme, de cibler, ça veut dire qu'on s'attaque aux fonctionnaires. J'ai repris cet exemple de Nicolas Sarkozy, c'est lui hein, qui avait sur le jour de carence. On s'inspire directement de cet exemple ?
Non, mais après, il faut regarder la réalité, parce que c'est pas du tout la même chose que le gel du point d'indice. Il y a quand même des collectivités, dans certaines collectivités territoriales, le taux d'absentéisme est à 30%. Donc, ça ressemble ni de près ni de loin à la situation qui peut exister dans le privé, même quand, si dans le privé, quand les conventions sont favorables, justement, et aboutissent plus ou moins à la même situation, ben, vous avez comme par hasard des taux d'absentéisme qui explosent quand vous avez un vendredi et après un jeudi férié, par exemple. Mmh. Enfin, la réalité, elle est là. Après, vous aviez l'air de considérer, ou vous aussi, que tous les fonctionnaires étaient infirmières ou policiers.
Ah non, pas tous. Non, mais j'ai dit dont on parle beaucoup en ce moment, la sécurité notamment.
Peut-être, mais je veux dire, on résume toujours le débat à ça. Il y a plus d'un million en plus de fonctionnaires en France maintenant qu'il y en avait il y a 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 20 ans, la France était sous-administrée? Enfin, il faut quand même à un moment regarder la réalité en face. On a créé, par exemple, au niveau territorial, à chaque fois des nouvelles collectivités, des communautés d'agglomération, etc., en ne supprimant jamais les fonctionnaires qui assumaient les mêmes missions dans la collectivité de départ. Donc avoir une réflexion sur la rationalisation de l'action publique, ça ne me paraît pas relever de la stigmatisation de catégories de population en particulier.
Continuez à en parler parce qu'on est très en retard. On parlera également du G20 à venir, la suite des informés de France Info.
Je suis Johan, arboriculteur dans la Drôme. Vous cherchez de bons abricots bergerons français ? Ils sont arrivés. Je les ai cultivés avec passion et avec toutes les forces de la nature. Car mes vergers sont éco-responsables. Ils préservent la biodiversité, les sols, les ressources en eau. Découvrez-les sur pêche-et-abricots-de-france.fr.
Dis, ferme tes yeux et imagine.
Vas-y.
Ce petit bijou de technologie.
Oui.
Le Samsung Galaxy S8.
Ah bah oui, j'imagine. Continue.
Avec 220 euros remboursés.
Waouh, très beau.
Et encore plus beau.
Oui.
100 euros de remise supplémentaire.
Alors là, c'est le rêve, hein.
Non, la réalité.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S8 avec un forfait sensation 20 gigas, profitez de 320 euros remboursés. Rendez-vous vite en boutique. Offre soumise à condition, conservant votre numéro et la reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Ça tournera à l'orage demain, beaucoup de soleil pour commencer la journée, mais déjà un ciel chaotique pour le sud-ouest le matin avec des ondées, parfois un orage au sud de la Garonne. L'après-midi, des orages pourront se déclencher sur toutes les régions au sud de la Loire jusqu'aux Alpes, des orages parfois forts avec du vent, de la grêle. Ailleurs, un ciel de plus en plus voilé, quelques ondées orageuses. Seules les régions allant de la Bretagne jusqu'au nord et aux Ardennes garderont un beau soleil. Une chaleur étouffante se maintiendra dans le centre-est, une nuit chaude de 17 à 22 degrés, moins sur le nord-ouest tout de même. L'après-midi, 22 degrés à Brest et Biarritz, 27 à Lille, mais 32 degrés à Paris, Agen, 35 à Dijon et Marseille, 36 à Limoges et 37 degrés à Lyon.
Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir.
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Une poignée de main et des mots doux. Première rencontre aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les chefs d'État américains et russes se sont vus à Hambourg en marge du G20 qui se tient jusqu'à demain. Au menu de leurs échanges, la Syrie, l'Ukraine ou encore le terrorisme. Un tête-à-tête historique pour ce début de sommet, Isabelle Chailloux.
Première journée marquée en effet par les images de cette toute première rencontre en face à face entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Une rencontre très formelle, sans excès de mise en scène, mais qui a duré près de 2h30. Les échanges auxquels la presse a eu accès sont minimalistes, tout en courtoisie diplomatique. Une brève poignée de main sous les flashs des photographes.
It's an honor to be with you. Thank you. Thank you. Thank you.
Я очень рад с вами познакомиться, господин президент. Надеюсь, что, как вы сказали...
Traduction, c'est un honneur d'être avec vous, a déclaré Donald Trump. Réponse de Vladimir Poutine, je suis ravi de vous rencontrer. Sur la teneur exacte de cette entrevue, rien n'a vraiment filtré. Et alors que les chefs d'État et de gouvernement assistent ce soir à un concert à la Philharmonie de Hambourg, les Sherpas, les négociateurs, se préparent, eux, à une longue nuit de discussion. D'après un diplomate français, un accord a bien été trouvé sur le point le plus consensuel de ce sommet, la lutte contre le financement du terrorisme. Sur les deux autres sujets en discussion, les négociations sont beaucoup plus dures sur le commerce international et surtout sur le climat. C'est le point le plus conflictuel puisque Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Emmanuel Macron espérait profiter de ce sommet pour ramener le président américain à la raison. Il n'en sera sans doute rien. Le projet de communiqué final qui circule prend acte de l'isolement des États-Unis sur le climat.
Et Isabelle Chaillou et puis 160 policiers allemands ont encore été blessés aujourd'hui dans des heurts avec des manifestants. 15 000 hommes ont été déployés pour l'occasion. Des renforts sont appelés à Hambourg. En France, le gouvernement va bien procéder dans les prochains mois à des sessions de participation pour un montant de 10 milliards d'euros. Bercy confirme ce soir. Il s'agit, explique le ministère de l'économie, d'alimenter un fonds destiné à financer l'innovation dans l'Hexagone. L'attentat de Nice, le 14 juillet dernier, il y a près d'un an jour pour jour, relax requise pour Sandra Bertin, une policière municipale qui a fantasmé des pressions gouvernementales. D'après le ministère public, le parquet écarte la thèse, en tout cas du complot politique ourdi par la mairie de Nice et celle du mensonge d'État. Le procès du crash de l'avion du patron de Total en Russie, les deux principaux accusés dispensés de peine, le conducteur du chasse-neige à l'origine de l'accident et l'ingénieur responsable du contrôle des vols ont certes été reconnus coupables et condamnés à 4 et 3 ans de camp, mais les peines ont été amnistiées en vertu d'une décision de 2015. Il est 20h33.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sprintent dans la grande roue de l'actualité, parce que France Info est quand même la radio du Tour de France. Voilà, je pense que ça se voit en tout cas. Et ce soir, dans les informés de France Info, nous trouvons Soisy Kemener de Marianne, Jean-Sébastien Ferjou du site d'information Atlantico, également Hamdam Mostafavi de Courrier International et la députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche, Aurore Berger. Encore juste un petit mot à propos de cet argent qu'il faut trouver, hein, près de 5 milliards d'euros pour le gouvernement. Alors tout ça est parti, hein, il y a la semaine dernière, du rapport de la Cour des comptes. Et il y a eu beaucoup d'échos autour de ce rapport, 8 milliards d'euros hein, qui mettaient à l'amende eh bien, le budget de François Hollande, le dernier budget. Soisy Kemener, c'est quand même assez étonnant, quand même, l'écho qu'on a fait quand même de cette recommandation de la Cour des comptes. Généralement, on n'en parle pas tant que ça.
Et justement, c'est parce que Emmanuel Macron considère que François Hollande, qui avait eu un rapport à peu près équivalent, même si c'était pas les mêmes chiffres, mais en tout cas au même moment de son quinquennat, il s'en était pas saisi, avait commis une erreur de communication. Donc ils ont décidé de faire du judo, hein, de se servir de ce rapport insincère. On en rajoute, on met Didier Migaud en avant, donc c'est de la communication.
Le président de la Cour des comptes.
Le président de la Cour des comptes. Donc il y a une volonté effectivement de saisir ce rapport, d'en faire un véritable objet politique. On va nous en parler. Beaucoup, parce que ça permet de justifier les choix du gouvernement hein, qui ont été montrés mardi par Édouard Philippe, c'est-à-dire cette volonté de retarder un peu ce qui pourrait être des bonnes nouvelles pour ceux qui avaient choisi de voter Emmanuel Macron en espérant par exemple l'exonération de la taxe d'habitation, 80% des foyers exonérés, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui avait marqué les Français. Maintenant on sait que ce sera plutôt pour la fin du quinquennat, on n'a pas encore de date définitive et précise, mais en tout cas ce rapport de la Cour des comptes il permet pas mal de choses quoi. C'est pratique.
Jean-Sébastien Ferjou, il est pratique finalement ce rapport insincère comme a dit Didier Migaud.
Oui, mais cela dit quasiment... Effectivement, François Hollande n'avait pas tellement utilisé l'argument. En tout cas, il n'avait pas voulu s'en saisir pour justifier un plan un peu plus dur, moyennant quoi il avait quand même fait, puisqu'on se souvient de toute la séquence sur le matraquage et le ras-le-bol,
le début du quinquennat Hollande.
Et le ras-le-bol fiscal. Non, ce qui est plus accablant, c'est qu'on rentre exactement dans la même logique ensuite, puisque quand le Premier ministre explique que de toute façon, ça n'aura aucune conséquence pour les Français, si ça en aura, on ne va pas aller chercher l'argent sur les biens personnels de François Hollande ou de Manuel Valls ou du ministre du budget de l'époque. Donc évidemment que ce soit dans le présent ou dans le futur, et d'ailleurs c'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement de s'endetter, forcément que ça aura un impact sur ce que doivent payer les Français à un degré différent, que ce soit par les impôts ou par des taxes, parce qu'on joue aussi sur les mots. Bien souvent on dit non, vous inquiétez pas, ce sont pas les impôts, ce sont des taxes ou des cotisations, ce qui pour celui qui le paye change profondément la sensation ressentie.
Aurore Berger, ça veut dire qu'on va en effet davantage payer?
Mais non, justement c'est pas le cas. Parce qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Alors, il faut m'expliquer où les hausses ont été annoncées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale.
Non, parce que vous avez... Ça relève d'une classe de CE2, je pense.
Excusez-moi, mais tout simplement, en fait, parce que quand vous avez un déficit public, vous n'êtes pas obligé de le combler par des hausses d'impôts. Vous pouvez aussi faire des économies. On en revient, par exemple, au débat qu'on avait précédemment, qui n'est pas anecdotique, sur un jour de carence, par exemple, pour les fonctionnaires. C'est une source d'économie de 170 millions d'euros par an. Donc voilà.
170 millions d'euros par an, c'est ce que. Mais précisément, tout le problème. Le problème, c'est que les économies, les pistes d'économies évoquées par le gouvernement sur la formation professionnelle, on voit que les gisements sont potentiels, mais ils ne sont pas réels. Donc on est aussi
dans une.
Pourquoi
ils ne sont pas réels, par exemple, sur la formation professionnelle ?
Parce qu'en l'état, ils ne sont pas détaillés. Parce que ça n'est pas parce que la formation professionnelle, effectivement, est un gouffre financier qui engloutit des milliards que là, il y a un plan convaincant qui permet d'imaginer que, effectivement, alors après, peut-être qu'il y aura un plan et peut-être que, effectivement, ça sera mis en œuvre.
Vous savez bien qu'il y aura un plan, puisque sur la modernisation du travail.
Mais ce qui a été présenté aujourd'hui, ça n'est pas.
Sur la modernisation du travail, on a un chantier qui s'étale sur 18 mois. Mmh. On parle beaucoup évidemment des lois d'habilitation sur les ordonnances, bien puisque sûr. Là c'est sur les questions de la simplification du code du travail. Vous savez, j'imagine qu'il y a 6 chantiers sur la question de la modernisation du travail. Il y a notamment la question du RSI, il y a notamment la question de l'extension de l'assurance chômage pour les démissionnaires. Il y a aussi la question de la rénovation de la formation professionnelle. Donc tout ça, je pense que vous aurez les réponses assez rapidement. Il faut juste y prêter un peu d'attention.
Mais aujourd'hui, donc il n'y a pas de taxes supplémentaires de prévues. Il y a pas,
non, mais le Premier ministre l'a dit d'ailleurs dans sa déclaration de politique générale, il faut en finir avec l'addiction française à la dépense publique et on ne fera pas de nouvelles hausses d'impôts pour combler les déficits. Il ne vous aura pas échappé également que tant le président de la République au Congrès que le Premier ministre en déclaration de politique générale ont réaffirmé tous les engagements de campagne qui avaient été pris. Tous, sans exception. Est-ce que certains éléments ont pu bouger en termes de calendrier ? Oui, il faut le reconnaître, et vous l'avez fait, et c'est normal qu'on le dise. Mais tous les engagements seront tenus, et tous les engagements ont été, je pense, extrêmement détaillés quand même pour un certain nombre d'entre eux par le Premier ministre en déclaration de politique générale.
Donc même la suppression de la taxe d'habitation sera tenue ?
Même la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, même dès janvier, le fait que sur les cotisations sociales des salariés, on supprime la part vieillesse et la part maladie. Il me semble que ça, c'est un gain immédiat de pouvoir d'achat pour les salariés.
Amda Mostafavi, est-ce qu'il y a une volonté, d'après vous, aussi de la part d'Emmanuel Macron de couper finalement avec le quinquennat Hollande en disant voilà, bon, même si il paraît que j'ai été ministre de l'économie, j'en suis plus trop sûr, mais il veut couper véritablement, non, en disant voilà, en rejetant totalement cet héritage s'il y en avait un.
Oui, oui, c'est sûr qu'il s'est présenté comme l'homme nouveau, l'homme de la rupture, et là c'est encore en plus une façon de dire, même si. Quand même, dans le discours d'Edouard Philippe, il y a un mot qu'on n'a pas entendu, mais qu'on a tous entendu, c'est le mot austérité, qui était quand même aussi, évidemment...
Il y a même eu un lapsus avec disette, à un moment, voilà, quand il a fait des... Voilà.
qui était quand même au centre de son discours. Et c'est, bon, c'est assez intéressant l'échange que vous avez eu, Jean-Sébastien, avec Aurore, puisque ça me fait penser à un article qu'on a passé cette semaine dans Courrier International d'El Mundo, qui disait « Le discours était suffisamment flou pour qu'on comprenne que ce soit une ère de restriction, mais aussi suffisamment... détaillé pour qu'on ne sache pas vraiment, il était entre le flou et le détaillé. Et c'est un peu ce qui ressort là aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on va rentrer dans une ère d'austérité, mais on ne sait pas vraiment, on a tous un peu peur parce qu'on ne sait pas vraiment qui va être directement concerné. Et sur cette mesure de taxe d'habitation, elle est quand même passée de urgente à un moment.
Voilà, à un moment.
Elle sera faite dans le quinquennat et tous les engagements seront tenus. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui est nouveau. Et ça a été très détaillé dans le discours de politique générale.
Allez, dans un instant, on va parler de la situation des migrants. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine a débuté à Hambourg, en Allemagne, en marge d'un sommet du G20 sous haute tension. Selon le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, les deux présidents ont eu un échange très vif sur les ingérences russes aux États-Unis. Mais il y a eu une alchimie positive, précise-t-il. Sachez que les manifestations se poursuivent ce soir à Hambourg. Un policier a été pris à partie tout à l'heure. Il a sorti son arme et effectué un tir de sommation pour se dégager des manifestants. L'enquête sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016 s'accélère. Des juges d'instruction ont été désignés pour poursuivre les investigations. Au cœur de l'affaire, une soirée où Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, a rencontré les start-up françaises. L'agence publique Business France, dirigée à l'époque par l'actuel ministre du Travail Muriel Pénicaud, est soupçonnée d'irrégularité. Muriel Pénicaud affirme ce soir dans un communiqué qu'elle n'a rien à se reprocher. Édouard Philippe annonce une série de mesures pour renforcer l'attractivité financière de la France. France. Le Premier ministre fait du pied aux entreprises et aux institutions financières alors que le Royaume-Uni a entamé sa sortie de l'Union européenne. Parmi ces mesures, une réforme de la taxe sur les salaires avec la suppression de sa quatrième tranche à 20% pour réduire le coût du travail. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle d'une décision délirante. L'UNESCO ajoute la ville palestinienne d'Hébron sur la liste des sites classés au patrimoine mondial. Hébron, en Cisjordanie occupée, devient zone protégée. La diplomatie palestinienne crie victoire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors c'est vrai que tout à nos problèmes de campagne électorale, de société civile, de Jean Lassalle qui donne des interviews très rigolotes, eh bien on avait mis, c'est vrai, à un moment, de côté les migrants, le drame humanitaire hein, d'un accueil trop fragile. L'actualité nous rappelle que la France connaît des drames hein, humanitaires sur son territoire et les images d'évacuation du camp de la Chapelle à Paris ce matin nous l'a encore rappelé. Des associations sur le terrain et notamment présentes en Méditerranée se font critiquer par les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne. L'Italie est en train de craquer et la maire de Paris, Anne Hidalgo, propose une loi pour une meilleure répartition sur le territoire. C'est une avancée, mais osons aller plus loin, selon la présidente de Médecins du Monde, Françoise Sivignon.
Pour l'instant, il y a eu un certain nombre d'efforts de fait avec 10 000 places de plus d'accueil en centre pour demandeurs d'asile. Donc il y a des structures d'accueil, mais ces structures sont absolument saturées. Donc il faut revoir tout ce dispositif d'abri, de mise à l'abri et de protection des personnes. Tout ce qui concerne les demandes d'asile aussi, qui doivent être raccourcies, hein, l'accès aux demandes d'asile doit être raccourci. Donc c'est un dispositif global qui doit se mettre en œuvre.
Voilà, Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde. Jean-Sébastien Ferjou, pour vous, est-ce qu'une loi, comme l'a proposé Anne Hidalgo, est-ce que c'est utile pour s'attaquer véritablement à un meilleur accueil ou des choses comme ça? Est-ce que c'est une loi, concrètement, est-ce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui?
Je pense qu'il y a une part de calcul politique dans la déclaration d'Anne Hidalgo, justement, vis-à-vis du gouvernement. Mais pour le coup, ce que le gouvernement a mis en avant en disant il faut réduire les durées de traitement des procédures de demandeurs d'asile, oui, bien sûr que c'est une bonne chose. Je pense pas qu'il y ait besoin de passer par la loi pour ça. Il y a un besoin de se mettre d'accord au niveau européen. Il y a différents problèmes à traiter. Il y a des problèmes qu'on peut traiter relativement à court terme. On voit bien qu'il y en a un avec la Libye, il y en a un avec les gardes-côtes libyens. L'Union européenne, dans le sommet d'hier, a encore décidé de donner de l'argent aux gardes-côtes européens, alors qu'on sait parfaitement qu'ils sont partie intégrante du problème. Il y a un problème avec un certain nombre d'ONG. Il y a des enquêtes qui ont été, enfin au moins une, ouverte en Italie sur la manière dont la mafia a investi ce secteur-là, puisque d'une certaine manière, pour récupérer les aides, ils vont chercher les migrants et les amènent en Italie. Alors, donc il y a différents. Et après, il y a le problème de fond du déséquilibre migratoire entre l'Europe et l'Afrique, notamment. Ça, je ne crois pas qu'une loi changera quoi que ce soit.
C'est un problème, en effet, plus global. Amdane Mostafavi, en effet, alors juste, on va en reparler de la loi, mais en effet, là, ce dont parlait Jean-Sébastien Ferjou sur ces ONG accusées donc, par les ministres des Affaires européens, pour vous, aujourd'hui, c'est quand même... Alors, elle dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas à la fois, en effet, nous, lancer des bateaux pour aider, en effet, des migrants qui auraient fait naufrage et être accusés de faire un appel d'air.
Oui, mais ça montre.
C'est pas de ça dont on les accuse.
Ah bah si, on les accuse.
Je parle d'autre chose. Je vous parle de l'enquête qui a été ouverte en Sicile. C'est pas. Après, il y a les accusations d'appel d'air, mais ça, c'est politique.
Oui, oui.
On les accuse de dépenser des millions qu'ils n'ont pas et qui seraient des millions investis par la mafia précisément pour que les ONG aillent eux-mêmes chercher les migrants pour pouvoir toucher les aides à l'accueil des migrants une fois arrivés en Italie.
Oui, il y a une enquête précise sur ce sujet et en Italie, on en parle énormément parce qu'aussi en Italie, c'est arrivé à un tel point de rupture que tout est examiné, tout est passé comme ça au crible pour essayer de comprendre et de trouver des solutions parce que les Italiens, on parle de loi, mais là, on a fait des accords au niveau européen. On a fait un accord de quota, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Les Italiens sont saturés. Les Italiens appellent à l'aide de la France, de l'Espagne. Ils avaient beaucoup d'espoir en Emmanuel Macron. Et finalement, il n'y a pas eu de solution à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas en quoi une loi au niveau de la France, par exemple, ça peut vraiment changer. À partir du moment où l'Europe ne se saisit pas du problème en elle-même et décide que chaque pays se débrouille, il n'y a pas de solution.
Aurore Berger, alors Anne Hidalgo n'est pas parlementaire, donc c'est à vous hein, qu'elle s'est adressée finalement en disant, est-ce que vous pourriez examiner cette demande? Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous trouvez utile, est-ce que c'est utile aujourd'hui d'une loi pour mieux organiser justement cet accueil?
Il y a une loi qui va être présentée par Gérard Collomb le 12 juillet prochain au Conseil des ministres sur la réforme du droit d'asile, c'est-à-dire sur les délais d'instruction du droit d'asile. On est en moyenne à 14 mois aujourd'hui, on souhaite que ça passe à 6 mois. Parce qu'en fait, tout part de là. C'est-à-dire que si vous n'examinez pas les demandeurs qui viennent et si vous ne distinguez pas ceux qui relèvent du droit d'asile parce qu'ils sont persécutés chez eux et parce que du coup, on doit les accueillir, et c'est notre honneur et c'est un devoir d'humanité aussi vis-à-vis d'eux, de ceux qui relèvent de migration économique et qui n'ont pas vocation à rester et qui doivent être reconduits à la frontière, vous ne pouvez pas résoudre le problème migratoire qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on mélange aussi des populations extrêmement différentes entre ceux qui relèvent vraiment du droit d'asile et ceux qui relèvent de l'immigration économique et qui n'ont pas vocation à rester.
Excusez-moi, moi j'en peux plus juste de cette distinction entre migrants économiques et demandeurs d'asile. Mais alors déjà parce que... Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les autres? Ils vont s'arrêter de venir? C'est-à-dire qu'on va résoudre tous les problèmes économiques du monde entier qui font que les gens... Ça sert à rien, je pense, de juste se dire on va juste intégrer les pauvres Syriens où on a foutu le bordel et les pauvres Libyens, et après on va laisser tomber toute la migration qui vient du reste du monde. Je pense que ça va pas juste se résoudre comme ça, en distinguant les bons immigrés des mauvais immigrés.
Moi, je pense que c'est pas possible. J'ai pas dit qu'il y avait des bons immigrés et des mauvais immigrés. J'ai jamais
oui, mais c'est toujours les solutions qu'on propose de distinguer. Certes, il faut accélérer la demande d'asile, c'est sûr, mais il faut pas ignorer l'autre versant du problème.
Mais vous êtes dans une situation, vous l'avez dit vous-même, de tension qui est juste insupportable. En Italie, il y a 75 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes italiennes, et c'est juste insupportable dans le sens où ils n'arrivent pas à le soutenir, à le réaliser, à l'intégrer, à traiter cette demande-là. Il y a 2000 personnes qui sont mortes en Méditerranée et qui continuent à arriver. Donc soit à un moment vous acceptez de dire que vous devez faire des différences en effet entre ceux qui relèvent du droit d'asile et qu'on a vocation à intégrer et à intégrer réellement, c'est-à-dire que derrière c'est des questions de logement, des questions d'accès à l'emploi, des questions d'accès à l'école, des questions de cours de langue, des questions d'intégration à la société française. Et après, des migrations économiques de gens qui n'ont pas vocation à rester et qui doivent être reconduits de manière effective à la frontière.
Soit-il Kemener, il y avait une chose qui était assez étonnante. On se souvient d'Emmanuel Macron à Bruxelles qui avait dit « il faut accueillir ». Et de l'autre, Gérard Collomb qui était à Calais et qui avait dit « alors attendez, les associations, il y a un moment, il va falloir arrêter parce que c'est vous qui créez des appels d'air ». Il y a deux discours.
C'est pour ça qu'il y a une vraie attente du plan migrant. Alors notamment, il y a cette loi sur l'asile, mais on attend d'avoir les réponses du gouvernement parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a ce flou, il y a ce discours européen qui d'ailleurs tranchait. Hein, vous souvenez avec le discours de Manuel Valls hein, qui avait tenu un discours très dur.
Il accusait l'Allemagne.
Ça c'était déjà il y a quelques mois. Donc il y a une vraie question sur la manière dont Emmanuel Macron va gérer cette situation. Alors on voit qu'Anne Hidalgo espère influer. Hein, c'est très politique. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle, c'est ce qu'on entend dans l'entourage, en tout cas d'Anne Hidalgo, qui a un espoir de faire pencher Emmanuel Macron dans la direction de déposition d'Anne Hidalgo, qui, vous vous souvenez, avait décidé d'ouvrir un camp de premier accueil à Paris, contre l'avis du gouvernement à l'époque. Et là, elle espère qu'il y ait d'autres camps, parce que c'est ça qu'elle propose, qu'il y ait d'autres camps sur la route des migrants. C'est-à-dire, ça pourrait être par exemple à Lyon, enfin à Nice, à Lyon. Il n'est pas question là de Calais, parce qu'on se souvient que c'est de Calais dont parlait Gérard Collomb, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas de point de fixation à Calais. Donc comment Emmanuel Macron va réussir à se loger dans ces interstices, je pense que ça va être un indicateur très important, ce qui va se passer mercredi prochain. Alors souvent on nous présente des plans, etc. Je pense que c'est très important de savoir quelle va être la vraie décision du gouvernement.
Alors on va continuer à en parler dans un instant, notamment sur le côté politique. L'info va arriver dans quelques instants avec Pierrick Bonneau qui discute, une petite foulée. Il arrive au micro, l'info à 20h50, donc Pierrick Bonneau.
Je vais souffler, Jean-Mathieu.
Maintenant, je vous prends comme ça. Voilà, il est pour vous.
Les deux accusés dans l'affaire du crash de l'avion de l'ancien PDG de Total, Christophe de Margerie, en 2014, ne purgeront pas leur peine. Le conducteur du chasse-neige à l'origine du crash et l'ingénieur responsable du contrôle des vols ont pourtant été reconnus coupables, mais ils sont dispensés de peine en vertu d'une amnistie décrétée en 2015, annonce ce soir de la justice russe. L'ex-diplomate proche de Nicolas Sarkozy, Boris Boillon, condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment de fraude fiscale. Il a notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans. L'ancien conseiller du président de la République avait été arrêté par des douaniers gardes du Nord à Paris en 2013 avec 350 000 euros en espèces alors qu'il s'apprêtait à monter dans un train direction la Belgique. Le campement de migrants de la Porte de la Chapelle à Paris évacué ce matin. Plus de 2700 personnes ont été conduites dans une vingtaine de centres d'hébergement en Ile-de-France. Parmi ces migrants, des femmes seules et des mineurs isolés. Un tiers de ces exilés dormiront ce soir dans des gymnases mis à disposition par la mairie de Paris en attendant qu'une solution pérenne soit trouvée, précision de la préfecture de Paris. Le groupe État islamique encore loin d'être anéanti en Irak. Les soldats de Daesh ont attaqué un village ces dernières heures au sud de Mossoul, tuant plusieurs civils et deux journalistes irakiens. Leur dernière enclave dans la deuxième ville d'Irak est sur le point de tomber, mais ce genre d'attaque se multiplie ces derniers jours dans des zones reprises par l'armée irakienne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore une question à propos des migrants, Jean-Sébastien Ferjou. À un moment, on avait imaginé, il y a un an, quand on se rappelle que ça allait être un des sujets de la campagne présidentielle. On n'en a pas du tout parlé pendant cette campagne présidentielle. Pourquoi, finalement, ça n'a pas été abordé, à votre avis?
Non, mais je ne sais pas, parce qu'on a parlé d'affaires,
voilà, non, c'est ça, non, mais, voilà, après on a parlé de ça,
mais c'est pas le seul sujet.
Même quand on a parlé de l'Europe, à un moment, on n'en parlait pas, finalement. On avait l'impression que, est-ce que quand il y a eu le démantèlement du camp de Calais, il y avait aussi peut-être de notre faute, nous, médias, on s'est dit, voilà, on en parle moins maintenant, parce que ça va peut-être moins intéresser les Français?
Mais je ne sais pas, mais je ne m'explique pas cette campagne présidentielle, précisément, une espèce d'effet de sidération sur, d'un côté, les affaires, et de l'autre côté, l'espoir d'un nouveau monde. Mais pourquoi vivrions-nous soudainement dans un nouveau monde où on échapperait, justement, à des déficits démographiques lourds? La question des inégalités qui avait aussi marqué le quinquennat de François Hollande, et pas seulement le quinquennat de François Hollande, qui est la question qui se pose à la plupart des grandes économies des pays occidentaux. Même chose, elle a été totalement passée à la trappe. On a beaucoup parlé de mots, beaucoup de symboles, et justement, ça s'est résumé à promettre un nouveau monde. Donc peut-être qu'on va vers un nouveau monde, mais enfin, pour aller vers un nouveau monde, en général, il faut s'efforcer de traiter les problèmes de l'ancien. Et là, je ne m'explique pas pourquoi on a cessé d'en parler. Peut-être parce que ce sont des sujets qui sont des défis vertigineux, qu'il n'y a pas de solution politique facile, et qu'il est plus facile de vendre un projet marketing de changement que, effectivement, mais ça s'adresse à tous les partis et pas seulement à celui de monsieur Macron, puisque les autres n'avaient pas de proposition convaincante sur le sujet. Donc il y avait une espèce de désert, des arguments en quelque sorte sur l'ensemble de ces thématiques-là.
Juste parce qu'on a bientôt terminé, je voudrais juste vous montrer une photo justement à propos de changement. L'autre monde, c'était aujourd'hui au G20, cette photo que tout le monde attendait, la poignée de main entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors on ne parlera pas forcément des migrants là-bas, on parlera lutte anti-terrorisme, on parlera Corée du Nord, environnement. Et Emmanuel Macron est là-bas également. Hamda Mostafavi, cette image, tout le monde l'attendait finalement depuis près de 6 mois.
Tout le monde l'attendait depuis 6 mois, oui. Et puis maintenant, il va falloir voir comment ils vont réussir à travailler ensemble. C'est l'enjeu majeur sur énormément de questions, sur la question de la Syrie, sur la question même plus loin de la Corée du Nord, puisqu'il y a la Chine, la Russie. Enfin, ça va être évidemment la question des... Nous, on parlait cyberattaques cette semaine. Ça a été quand même au cœur de toutes les campagnes électorales. Et ça va risque de l'être aussi, il y a la campagne allemande qui arrive, donc c'est un...
Très chargé, finalement, ce G20.
Oui, c'est un couple qui va être très scruté.
Justement, à propos de couple, celui de Kemener, on a vu des photos, finalement, entre Emmanuel Macron et Donald Trump, ça se passe bien, non? Ils se font des petites poignées de main, ils se tapent dans le dos, un peu une bromance, vous savez, comme on dit en anglais, voilà, c'est ça. C'est bizarre, quand même, enfin, finalement, il y a Je t'aime, moi non plus, entre les deux, à votre avis?
On savait
que le 14 juillet, et en même temps, on se critique sur l'environnement.
Oui, on est dans l'image, mais là, non. Mais ce qui va être important, effectivement, c'est le sujet environnemental. On sait que Emmanuel Macron a décidé d'en faire un cheval de bataille. Moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à quand? C'est-à-dire que on a le souvenir du début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, la France a assuré la présidence tournante de l'Union européenne. Il y avait le pacte climat-énergie signé en 2008. Il y avait la conférence de Copenhague en 2009. Et puis d'un coup, patatras, tout s'est effondré. Parce que il n'engrangeait pas des résultats électoraux sur cette donc voilà, toute la question est de savoir comment tenir dans la durée ce genre de très bonnes intentions.
Aurore Barger, hier Nicolas Hulot a présenté son plan climat. Là justement, il vient avec sous le bras en fait Emmanuel Macron à Hambourg au G20, il se positionne véritablement aujourd'hui dans une sorte d'écolo-diplomatie.
Oui, je pense que c'est important et c'est logique aussi que ça puisse être étudié au G20, notamment après les déclarations et les actes de Donald Trump sur la sortie de l'accord de Paris, où il y a une position de la France qui était extrêmement forte, qu'il avait d'ailleurs donnée pendant la campagne présidentielle, si vous en souvenez, où Emmanuel Macron avait invité notamment les chercheurs à venir en France pour tous ceux qui voulaient lutter contre les climato-sceptiques notamment. Et après, il y a un plan climat qui, lui, s'étale bien au-delà justement du quinquennat. Mais l'idée, c'est que quand même, on arrive, par exemple, à un mix énergétique avec 30% d'énergie renouvelable en 2022.
Il l'a converti, Nicolas Hulot, quand même, un petit peu. Voilà, parce qu'on savait que c'était pas la posture.
Je pense que c'est Je pense que Nicolas Hulot serait pas venu si justement c'était que de la posture. Mmh. Il aurait pas accepté, alors qu'il a refusé aux deux anciens présidents de la République d'être l'un de leurs ministres. Il aurait pas accepté de venir s'il n'y avait pas eu des engagements fermes, et ils ont été donnés pendant la campagne présidentielle. Tout ce qui est aujourd'hui dans le pacte climat qui a été présenté notamment hier par Nicolas Hulot, encore une fois, ce sont des engagements du candidat Emmanuel Macron et réaffirmés pendant la campagne législative. On n'a jamais changé de projet, nous. C'est l'avantage qu'on a quelque chose de cohérent à présenter.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou d'être passé ce soir. Merci Aurore Berger.
Merci.
Hamda Mostafavi, la une de Courrier International cette semaine.
Cette semaine, c'est cyberattaque, comment riposter.
Ah, très bien, voilà. Ben voilà, donc c'est le mode d'emploi.
Oui, c'est ça, le mode d'emploi, comment.
Exact, un peu. Allez, et la une de Marianne cette semaine, Soizic Kemener.
Alors, entre autres sujets, Simone Veil, elle a connu le lynchage avant le Panthéon, c'est toujours utile de le rappeler.
Exactement, à retrouver en une de Marianne. Il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico menu ce soir.
Alors on va sans surprise encore beaucoup parler de vélo ce soir avec le résumé, l'analyse de la 7e étape de l'année par Kittel, encore lui du côté de Nuit-Saint-Georges aujourd'hui. Zoom aussi sur les deux arrivées au sommet prévues ce week-end, ça va commencer à s'exciter un petit peu dans le Jura et dans les Alpes. On va aussi parler de Jacques Anquetil auquel l'un de nos invités ce soir a consacré un ouvrage.
Le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.